Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
Le Club des Idées ce soir, on en parle, débat vraiment intéressant. Que deviennent les sportifs de haut niveau quand ils ne sont plus sous le feu des projecteurs? On a avec nous ce soir beaucoup de chance. On a Yannick Agnel, champion olympique, natation, Christine Aron, Bruno Bellone, footballeur, et puis la psychologue Myriam Salmi. Merci à vous quatre d'être avec nous. On parlait de traumatisme un instant avant la pause avec Bruno Bellone. Je voudrais donner la parole à Christine Aron, ancienne championne du monde de relais 4x100 mètres, entre autres. Christine, ce traumatisme dont parlait Bruno Bellone, vous ne l'avez pas ressenti?
Bah, disons que j'ai pas eu le même, j'étais pas dans le même cas de figure que lui où j'ai arrêté ma carrière à 28 ans puisqu'elle était justement très longue, mais c'est resté quand même un traumatisme au moment où on décide d'arrêter, même si on a préparé sa reconversion. Ce moment quand même est dur psychologiquement. Il faut accepter en fait d'arrêter une carrière, d'arrêter de faire ce qu'on aime faire. Et pour moi, oui, ça a été dur. J'étais quand même déprimée pendant quelques mois. Parce que entre le moment où on se dit que voilà, c'est terminé, il faut l'accepter, et accepter cette fin de carrière, il faut faire un deuil, et ça prend du temps.
Myriam Salmi, comment on prépare ces sportifs? Il y a quand même l'entourage, il y a quand même des gens bienveillants autour de ces sportifs. Vous leur dites quoi? Vous leur parlez aussi?
En fait, ce qui est compliqué, et tout à l'heure Yannick le disait, c'est que vous êtes tellement pris. On dit souvent que les sportifs de haut niveau sont égoïstes. Moi, je dis que c'est le sport de haut niveau qui est égoïste. Donc, évidemment, théoriquement, on sait qu'il y aura un après-carrière, mais on n'a même pas le temps de s'en préoccuper. C'est impossible.
Égoïste,
il n'y a pas de temps pour
ça. Parce que centré sur soi, sur ses performances,
oui,
sur son corps, sur...
Tout à fait. C'est que le sport de haut niveau, de très haut niveau, l'excellence n'autorise pas la digression. Donc, vous êtes constamment happé par ce que vous devez faire pour être à la hauteur des événements qui vous attendent. Donc, du coup... vous avez peu de temps pour autre chose. C'est un monde extrêmement particulier. C'est des mondes d'élite. C'est des mondes où peu de choses est autorisée en dehors de ce qu'on doit faire. Donc en fait, déjà, il y a cet aspect-là qui est difficile. Je pense qu'on doit aussi s'améliorer sur l'accompagnement des athlètes pour la reconversion, même si évidemment, on sait qu'aujourd'hui, on a beaucoup avancé. Il nous reste, malgré tout, des choses à faire. Et puis, il y a aussi l'idée que lorsqu'on a traversé et qu'on a vécu des moments d'exception, des moments émotionnellement extrêmement forts, c'est compliqué d'envisager qu'un autre monde puisse vous proposer ça. On a l'impression que les autres mondes sont sans saveur, inodore, incolore. Et je pense que ça aussi, on doit le travailler auprès des athlètes parce que c'est faux.
Yannick Agnel, Myriam disait à l'instant, être accompagné, et ça c'est vraiment un gros progrès à faire. Vous avez été accompagné, votre entourage, vos coachs, votre famille?
Mes coachs, non, puisque c'est une famille qui s'en va, mais j'ai retrouvé ma famille nucléaire. J'ai profité de tous ces moments, de tous ces mois qui ont suivi l'arrêt de ma carrière pour retrouver en fait les miens que j'avais pas côtoyés à ce point depuis 10 ans.
Et déjà, rattraper le temps perdu.
Essayer de rattraper le temps perdu et puis prendre le temps, en fait, tout simplement. Revenir à un rythme, comme le disait Myriam, qui n'a quasiment jamais été le nôtre. Et au départ, c'est un peu surprenant quand on commence à se réadresser à l'administration et que tout prend un mois, alors qu'on a l'habitude que tout prenne une seconde. Je caricature un peu, mais il y a un peu de vrai là-dedans. Ouais.
Qu'est-ce que vous faites après, du coup, Yannick?
Eh bien, à ce moment-là, tout juste après ma carrière, ça
vous avez
a été,
voulu reprendre les cours à un moment.
Ça a été, alors ça a été un peu plus loin après. Ouais. J'ai pris une année sabbatique où je me suis dit justement, je vais en profiter pour faire tout ce que je n'ai pas pu faire pendant ma carrière.
Donc d'abord repos,
famille, ouais, voyage un petit peu aussi. Mais en fait, j'avais tellement d'idées, tellement de choses à explorer que vous savez, c'est comme quand vous avez ce week-end, vous avez tellement de choses à faire qu'en fait, vous finissez par ne rien faire du tout. Ben, j'ai fait un week-end en année. et puis après, au bout d'un moment, je me suis dit effectivement qu'il était temps pour moi de trouver
une autre
voie, un autre sens à ma vie, un autre fil rouge en tout cas, plutôt qu'un autre sens à ma vie. Et ça passait notamment effectivement par une légitimité différente, par un environnement différent. Et c'est là que j'ai repris les études.
Et ensuite, il y a eu quoi?
Et ensuite, il y a eu, eh bien...
Vous êtes lancé dans des projets.
Dans beaucoup de projets différents, oui, tout à fait. Dans beaucoup de projets différents. Et aujourd'hui, je suis assez touche-à-tout. Et j'ai même l'occasion de revenir vers le sport pur et dur, pas par défaut. Mais justement par choix, parce que c'est un milieu qui me passionne, qui continue de me passionner. Donc ça touche du sport à l'e-sport, au textile, à la littérature maintenant aussi, donc beaucoup de choses différentes. Ouais.
Vous êtes heureux aujourd'hui ?
Oui, je considère que je suis heureux.
Heureux que quand vous étiez...
Je vais même vous dire plus.
Prêt à plonger ?
Je vais même vous dire plus, parce que... Mais je pense que ça dépend de la personnalité des sportifs. Mais oui, je suis plus heureux aujourd'hui parce que je suis plus en phase avec la personne que je suis réellement. Vous parliez de notoriété tout à l'heure. En fait, vous étiez en train d'axer la question sur la notoriété, et je crois que Christine a bien répondu. Si on fait ça, en tout cas, je parle pour nous deux, si on fait ça, c'est pas pour l'argent, c'est pas pour la notoriété, c'est pas pour être en haut des titres. Je vous mentirais si je vous disais que ça nous fait pas plaisir, évidemment. Mais on fait pas ça pour ça, à la base.
Voilà. Bruno Bellone, vous êtes avec nous ?
Oui.
Je le redis, hein, pour ceux qui nous rejoignent, footballeur, champion de France 82, champion d'Europe 84, vous remportez la Coupe de France en 85. Tout à l'heure, avec Xavier Yvon, qui est le rédacteur en chef de cette tranche, il me disait, mais moi, petitot, j'avais la vignette Panini de Bruno Bellone. J'ai simplement envie de vous poser une question, la même qu'à Yannick à l'instant. Vous êtes heureux ?
Ah, je suis super heureux. Ah. Super heureux. Bon, j'ai eu des moments hyper, hyper difficiles, mais bon, vous savez, quand vous avez été sportif de haut niveau, il y a une chose qui est importante, c'est qu'on lâche rien. Voilà, on lâche rien et j'ai jamais rien lâché. Et aujourd'hui, j'ai trouvé ma voie, c'est d'aider les autres. Voilà.
On lâche rien, mais Bruno, il a fallu que vous battiez comme un forcené.
Ah, oui.
Parce que quand vous arrêtez tout... Vous avez vécu 12 années d'enfer.
D'enfer, oui. J'ai tout perdu. C'est-à-dire, en 28 ans, j'ai perdu mon métier, j'ai divorcé.
Oui.
J'ai perdu un an après tous les biens que j'avais. Et je me suis retrouvé carrément ruiné, quoi. Voilà, j'ai tout eu en même temps.
Ruiné. Donc, ruiné jusqu'à, jusqu'à quoi ? Jusqu'à dormir dans la rue, par exemple ?
Dans la voiture, oui.
Dans la voiture ?
Ouais, ouais, ouais. Comme quoi, le sport m'a servi, parce que si j'avais pas eu cette mentalité de me battre, je pense que je serais déjà très loin, hein. Franchement.
Mais Bruno, vous nous dites, j'ai dormi dans ma voiture. Tous ceux qui gravitaient autour de vous, vos amis, les coachs, les gens qui étaient fiers d'être amis avec vous, j'imagine, ils étaient où ? Ils étaient où à ce moment-là ?
C'est du bidon, ça. Il n'y a pas d'amis. Vous avez des amis à partir du moment où vous êtes connu et qu'on parle de vous et que vous gagnez beaucoup d'argent. Mmh. Après, le jour où j'avais plus rien, il n'y a plus personne autour. Mais c'est que mieux parce que au moins, vous savez...
On va à l'essentiel.
Sur qui on peut compter après. Et ça, c'est le plus important. Et c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, je suis le plus heureux des hommes. Mmh. Je fais ce que j'ai envie. J'ai réglé tous mes problèmes. Et j'ai des amis qui sont avec moi, pas pour autre chose. Voilà.
Votre argent, vous étiez riche à l'époque, votre argent intéressait les gens, hein, qu'il y avait autour de vous, et à tel point que certains ont profité de vous.
Ben, c'est l'ami de mon père.
L'ami de votre père.
C'est l'ami de mon père d'enfance qui m'a trahi. Voilà, qui a trahi d'ailleurs mon père, qui a trahi toute ma famille.
Racontez-nous rapidement.
Bah rapidement, c'est-à-dire que, vous savez, quand je suis parti à 14 ans de chez mes parents pour aller au centre de formation à Monaco.
Oui.
Donc, arrivé un moment, très vite, à partir de 2 ans et demi, j'ai commencé à m'entraîner avec les pros. Et à 17 ans, je commençais à jouer avec les professionnels. Et quand on parle que c'est pour l'argent que j'ai fait le football, pas du tout, parce que, vous savez, quand je suis arrivé à Monaco, je gagnais 300 francs par mois. J'ai fait ce métier parce que c'était ma passion, c'était ma vie. Le football, ça a été ma vie et encore aujourd'hui, hein, je veux dire.
On va en parler, oui.
Oui, et donc, si vous voulez, j'ai demandé à mon père de s'occuper de moi parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'agent, il n'y avait pas de.
Bien sûr.
Il n'y avait pas d'avocat comme tous les joueurs qu'ils ont aujourd'hui. Donc moi, j'ai demandé à mon père de s'occuper de moi, parce que c'est ma famille. Quelqu'un de votre famille, c'est assez rare quand même qu'il vous trahisse. Et mon père m'a dit, écoute, mon fils, je suis plombier, je pourrais pas faire des contrats de pour toi, c'est pas possible. Donc je vais te présenter un ami qui a réussi dans l'immobilier. Donc il m'a dit, t'inquiète pas, lui va bien s'occuper de toi. En définitive, il s'est occupé de lui. Il prenait mon argent pour faire ses promotions immobilières. Ouais. Et je me suis rendu compte à l'âge de 24 ans qu'il était en train de me trahir, quoi. Et j'en ai parlé à mon père, et même mon père, quand je lui ai dit, il m'a dit, mais c'est pas possible, t'es fou, tu dis n'importe quoi. Et quand il s'est rendu compte, il voulait le tuer lui-même. J'ai dit, mais ça sert à rien. Hein. Une fois que t'as tout perdu, c'est trop tard. Tu aurais dû m'écouter, je suis ton fils, tu m'as pas écouté, t'as écouté ton ami. Et puis le mal a été fait, et puis c'était fini. Hein.
Bruno, juste pour terminer cette histoire, et on va continuer, on va faire circuler la parole, c'est Jeannot, vous l'appelez Gentil Gana, qui vous a sauvé. Hein.
Jeannot, oui, magnifique, Jeannot. vous savez, c'est après avoir fait 5 émissions avec Julien Courbet, et quand j'ai voulu faire la première émission, je vous jure que c'est vrai, hein, beaucoup de gens m'ont dit, ne fais pas ça, tu vas dire que t'es ruiné. Tous les gens...
Pas facile de se mettre à nu, hein. Pas facile de se mettre à nu.
Je vais vous dire comment je me suis mis à nu. C'est que j'étais dans une loge, je ne bois pas de champagne, mais ils m'ont mis une bouteille de champagne dans un seau de champagne avec les glaçons. Et moi, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je bois un verre, comme ça, je vais me détendre.
Ouais.
Et j'ai bu la bouteille. Ça fait que je suis rentré dans l'émission, j'étais gay, j'étais mort de rire, j'étais bien, quoi, j'étais tranquille. Les gens, ils devaient se dire que, mais quoi, il est ruiné, le mec, il rigole, il parle avec nous et tout, cool. Et quand ils montrent la première image, quand je marque le but en 84 contre l'Espagne,
ouais,
je m'effondre.
Vous êtes là, Bruno? Oui.
Oui, je suis là, ouais. Je me suis effondré.
Ouais.
Voilà. Et tout est remonté à la surface. C'était terrible.
Et dites-moi, Tigana, donc il vous sauve, il vous sort du pétrin. Il était à l'époque entraîneur de Monaco et c'est lui qui vous tend la main.
C'est ça. Après avoir... c'est-à-dire qu'il y a un joueur de Monaco qui est allé voir Tigana, qui était entraîneur de Monaco, et qui a dit, il faudrait aider Bruno. Donc oui, il m'a appelé sur mon portable. Il me dit, Bruno, il faut que tu viennes me voir au stade, à l'entraînement. Qu'on parle, tu me dis ce qui t'arrive.
Ouais.
Et quand je lui dis, voilà, écoute, il me dit, tu dois combien? J'ai dit, 5 millions de francs. Et il a failli tomber de son banc. Il m'a dit, mais non, c'est pas possible. J'ai dit, oui, c'est bien sûr que c'est possible. Et il m'a dit, écoute, donne-moi 3 jours et je vais faire le maximum.
Ouais.
Et il a été exceptionnel. Il s'est pas démonté. Et puis,
Bruno, restez avec nous. Oui, hein, parce que
grand plaisir.
Vous êtes aujourd'hui et vous êtes au service des sports de la ville du Canet-Rocheville depuis 2007. Il y a un point commun chez vous tous. Je lisais votre fiche. Tout à l'heure, Bruno, vous disiez, ben, finalement, après avoir été une star du ballon rond, la vie est fade. Et c'est exactement ce que dit Christine Aron-Aron. Vous êtes là, Christine, ancienne championne du monde,
oui,
du relais 4x100
mètres.
Vous avez dit aussi, la vie est fade après.
Oui, c'est vrai. Je trouve que, enfin, au fur et à mesure, ça va mieux. Hein, mais c'est vrai que toute l'ambiance qu'il y avait autour des entraînements, des compétitions, des stages, enfin... Il y avait toujours quelque chose, il y avait toujours des objectifs. Et c'est vrai qu'après, tout retombe comme un soufflet. Et il y a une espèce de grand vide, en fait, qu'on a du mal à combler.
Elle est dure,
même
en
si
effet,
on a beaucoup d'activités. Pardon ?
Elle est dure, j'imagine, cette période à gérer. En effet, quand on a été applaudi, aimé, encensé, de devoir finalement retomber dans une vie normale, entre guillemets.
Oui, c'est vrai. Mais moi, disons que ça s'est fait progressivement parce que ma carrière a été assez longue. Donc, j'ai terminé en fait pas mal sur des blessures. Mais c'est juste le vide de ne pas pouvoir faire des compétitions toujours. Enfin, on a une vie qui est quand même qui est assez rythmée. Et il y a ce rythme qui se casse. On est même si on a d'autres activités, mais c'est quand même pas pareil, quoi. Il y a plus cette fougue, cette passion dans quelque chose qu'on aime.
Donc c'est vrai que c'est un peu difficile.
Yannick Agnel, il n'y a plus cette foot, cette passion, disait à l'instant Christine. Vous l'avez ressenti, vous aussi. Est-ce que vous diriez qu'après le passage, la vie est fade, momentanément en tout cas?
Non, je ne pense pas. Je vais peut-être vous surprendre, mais je ne pense pas. Je pense que ça dépend des gens, ça dépend du parcours, ça dépend d'énormément de choses, de la personnalité, du ressenti et puis des événements. Je pense que c'est peu évident hein, de trouver sa voie ensuite, une nouvelle voie à tout le moins. Mais pour moi, ça a été un moment justement de redécouverte et de curiosité un petit peu étanchée aussi dans beaucoup de domaines différents. Et je trouve pas. Évidemment, au début, quand tout s'est arrêté, je me suis posé la même question que tous les sportifs de haut niveau à l'arrêt de leur carrière. Je me suis dit, bon, histoire de retrouver toute cette adrénaline, finalement, à part faire Thomas Pesquet ou Emmanuel Macron, ça va être difficile. La réalité, c'est que non. La réalité, c'est que non. Et ça me l'a prouvé assez rapidement derrière. Notamment, à partir du moment où on est force de proposition, où on décroche le téléphone et on appelle les gens parce qu'il y a des choses qui nous tiennent à cœur, et notamment au niveau de l'entrepreneuriat en soi, pour citer qu'un seul domaine, quand un jour vous prenez une claque et le lendemain ça va mieux, ça vous rappelle vos années natatoires. Ouais. Donc, et ça c'est un seul domaine, mais je pourrais vous en citer tant d'autres. Je pense que c'est une erreur de rechercher probablement la même intensité, le même rythme et cette adrénaline qu'on avait jusque-là. Je pense qu'il faut apprendre à accepter que la vie est différente et qu'elle peut nous apporter des bonheurs qui arrivent sous une forme différente.
19h47, si vous nous rejoignez sur Europe 1, débat du Club des idées passionnants ce soir. Que deviennent les sportifs de haut niveau quand ils ne sont plus sous le feu des projecteurs, avec des invités somptueux et d'une sincérité, je trouve, assez rare. Et merci à vous, Yannick Agnel, Christine Aron et Bruno Bellone. Et puis la psychologue Myriam Salmi. Myriam, est-ce que ces jeunes sportifs, et on va vraiment se projeter sur qu'est-ce qu'on peut améliorer, est-ce que ces jeunes sportifs sont coachés, drivés, justement, pour penser à l'après?
Alors, évidemment, il y a aussi une différence qui est quand même fondamentale. Il y a les sports olympiques, amateurs, et il y a les sports professionnels. On n'est pas du tout dans les mêmes cas de figure. Je vois bien quand je suis des footballeurs ou quand je suis des nageurs, par exemple, ou des athlètes. On n'est pas du tout dans les mêmes configurations. Alors, je ne parle même pas des lutteurs ou des joueurs de badminton, qui sont aussi remarquables que tous les autres sportifs, évidemment. Je pense par exemple sur cette question du double projet où quand même les athlètes sont accompagnés durant leur carrière. Et il faut quand même souligner, vous le disiez tout à l'heure, tous ces encadrants qui font quand même les choses au mieux qu'ils peuvent, si on doit s'améliorer, ça je suis d'accord. Et puis il y a le sport professionnel où on va dire que là, ce n'est pas tout à fait la même chose. Là, on rentre dans le salariat, enfin, ouais, entre guillemets, vous êtes payé pour faire quelque chose, ce qui n'est pas le cas des sports amateurs. Et là, on ne va pas retrouver la même configuration.
Bien sûr.
Là, ce n'est pas la même chose. Les sports professionnels, même si eux aussi cherchent à s'améliorer, on va dire que la partie études et formation, on ne peut pas dire qu'elle soit particulièrement mise en avant. On préfère les voir sur un terrain, jouer, marquer des buts, ouais, faire des belles passes. Faut quand même dire les choses telles qu'elles sont encore aujourd'hui. Moi, j'ai commencé ma carrière dans le football. Je peux vous assurer que la première fois que j'ai parlé, il y a de ça plus de 28 ans, d'accord, ça remonte. Les responsables auxquels je m'adressais ont explosé de rire quand je leur ai parlé d'école et quand je leur ai parlé d'accompagnement psy. Vous imaginez, ils se sont esclaffés de rire.
C'est ça.
Voilà. Donc,
ça veut dire que, pardonnez-moi Myriam, la nouvelle génération justement prend en compte ce côté-là, ce qui n'était pas le cas il y a 28 ans.
Je pense qu'on avance lentement.
On commence à se dire, voilà, il faut maintenant intégrer l'après.
Oui, on est lentement. Quand, par exemple, j'entends Bruno Bellone parler. Vraiment, je suis touchée hein, par ce témoignage.
Ouais,
très touchée.
Justement.
Et il est temps, oui.
On va faire un petit.
Plus jamais ce genre de carrière, plus jamais ce genre de situation.
Bien sûr. Ouais. Je voudrais qu'on vous écoute tous. Allez, Christine Aron, madame la maire adjointe en charge du sport de la ville de Champigny-sur-Marne, près de Paris. Christine, vous diriez quoi aujourd'hui? Il faut quoi pour ces jeunes-là, ces futurs champions? Il faut mieux les encadrer, il faut les accompagner, il faut déjà penser à l'après.
Oui, c'est une évidence que il est préférable que les jeunes soient encadrés. Mais maintenant, c'est beaucoup plus le cas qu'avant. Hein. Ça, là-dessus, il y a eu beaucoup de progrès. Mais moi, ce que je voulais dire,
c'est Christine, par exemple, j'ai lu qu'il y avait de nombreuses entreprises qui proposaient des passerelles entre vie sportive et vie professionnelle. Ça, c'est du concret. On va en parler avec Yannick.
Il y a aussi le pacte de performance qui permet aux athlètes justement d'intégrer une entreprise aussi. Comme ça peut après leur carrière, si ça leur plaît, hein, de continuer avec cette entreprise. Il y a des choses. Mais moi, ce que je voulais dire aussi par rapport au témoignage de Yannick, c'est que on est tous différents en tant que sportifs de haut niveau. On vit pas les choses de la même manière. On a eu une enfance différente qui fait qu'on aborde aussi les choses de manière différente. Par exemple, moi, c'est vrai que j'ai eu du mal à arrêter et que c'était difficile, mais bon, j'ai tourné la page. Je sais très bien que c'était pas une activité que j'allais continuer éternellement. Et ce qui est important, en fait, c'est vraiment d'être au plus près de soi-même et de trouver son chemin de vie. Mmh. Et en ce qui me concerne, c'est vrai que j'ai de nouvelles activités professionnelles, mais je n'ai pas encore trouvé justement cette chose, cette activité justement qui me rend heureuse et qui me permet justement de vivre pleinement cette seconde vie. Et c'est ça qui est important pour moi aujourd'hui, c'est qu'on puisse trouver son chemin de vie, être au plus près de soi, de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on aime. Parce que il y a beaucoup d'athlètes, moi, qui partageaient d'autres passions que leur sport. Mmh. Donc pour eux, c'est beaucoup plus facile après de trouver des choses derrière.
Christine.
Et quand on n'a pas d'autres passions et d'autres choses, c'est plus compliqué.
Merci à vous, Christine. Je voudrais qu'on écoute Bruno Bellone. Là encore, rapidement, Bruno, vous dites quoi aujourd'hui à un petit haut là, qui joue dans un club de foot, qui a été repéré, qui va être un grand champion? Vous lui dites quoi? Attention, pense à ce que tu feras après.
La première chose que je voudrais dire, c'est surtout aux parents, c'est d'arrêter de penser que leur fils, il devienne professionnel, parce que c'est horrible, ça, parce que moi, je le vis, je le vis parce que j'ai mon fils qui a 12 ans et qui est au football et que je les vois, les parents, et c'est horrible parce qu'ils pensent tous que leur fils, il va devenir professionnel et qu'ils vont arrêter de travailler et qu'ils vont gagner plein d'argent.
Ouais.
Mais moi, ce que je veux dire, c'est important, parce que je l'ai vécu. Quand j'arrive au centre de formation à Monaco, j'avais 14 ans, et sur quoi je me suis heurté, c'est que quand on arrive dans un centre...
Rapidement, Bruno, pardonnez-moi, rapidement.
Oui, je suis rapide. Il y a déjà des jeunes qui sont déjà en place depuis 2 ou 3 ans dans les centres de formation. Et ces jeunes-là vous mettent à l'amende, parce que vous pouvez prendre la place d'un ami à lui, et ils essayent de vous mettre à l'amende tous les jours.
Ouais.
C'est ma place, ils essayent de vous chercher. Et si vous n'êtes pas costaud, ça c'est le plus important pour les jeunes. S'il est costaud, le gosse, il pourra aller où il veut. Mais s'il est, faible moralement, ça va être très dur.
Ouais.
Voilà.
Parfait, merci.
Très important.
Merci à vous tous vraiment d'être venus ce soir en studio, soit en studio, soit au téléphone. Merci de vous être raconté sans détour. On a réfléchi ensemble, c'était vraiment utile. Merci pour votre sincérité et votre honnêteté. Grand merci à vous.
Europe 1, écoutez le monde changer.